Man, there's supposed to be 1.5 million people here by tonight. New York State Thruway is closed, man.
Hello to all friends, resistance, revolution in America.
We must be in heaven, man. There is always a little bit of heaven in a disaster area.
How are you out there?
La serie musicale di te. Woodstock, eterna, ai te. Alla di Maio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout cet été, la série musicale fait tomber les murs et cette semaine, Woodstock, l'éternel été, essaye d'entendre quel mur a fait tomber ou trembler ce rassemblement de musique Peace and Love. C'était il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, on fait tomber les portes de la perception.
Nous suivons ici les 2 dernières heures de l'expérience qui dure maintenant depuis 4 heures.
Oh là là.
Hélène a éprouvé la première les effets du LSD. Elle a eu chaud, elle a eu froid. Elle a senti sa nuque s'alourdir, ses joues se durcir. Elle se plaignait. Puis elle a commencé à voir le tapis grouillé de serpents, les murs se déformer, les visages se rétrécir autour d'elle. Jean ensuite a vu le plafond couler comme si le plâtre n'était pas pris. Hélène croit voir bouger un poisson d'argent. Le LSD les rapproche. Ils vont délirer ensemble jusqu'à la fin. Ils sont emportés par la drogue, absolument annihilés par elle.
Oh là là.
Ah, je sens plus mon corps du tout.
Ah, je sais plus du tout. Oh, dear Rama, Jai Krishna Hari Om. Om Jai Rama, Jai Krishna Hari Om. Om Jai Rama, Jai Krishna Hari Om.
Om Shanti Om, bienvenue dans notre bateau ivre, dans nos dérèglements des sens rimbaldiens, là où toutes les expériences vont se nourrir, se croiser, étirer les consciences et les croyances et surtout nous élever. Sous LSD ou pas, aujourd'hui encore, nous irons un peu au-delà de Woodstock et de ses volutes, là où les esprits libèrent les corps, là où les expériences charnelles ouvrent les portes de la perception. Nous irons dans des ashrams et des laboratoires, on prendra la pilule et des buvards, on dansera nu, on écoutera Manny Grégoire à la radio et on libérera la parole et le corps. On ira où tu voudras, quand tu voudras, mais aussi un peu dans l'insondable des âmes et de la dévotion. Bref, dans ces lieux sacrés, irréels et intimes, qui deviendront pourtant la caisse de résonance d'une génération. 60 000.
Et son Gainsbourg vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années
Qu'appelez-vous liberté sexuelle, docteur ?
Eh bien, je reprendrai le terme d'une jeune fille de 19 ans, c'est-à-dire faire ce que l'on veut.
Oui.
Et ça me paraît quand même quelque chose de bizarre.
69 années érotiques, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, tout en tension harmonique et en sensualité, ce n'est peut-être pas si bizarre parce que 68 est passé par là et parce que le 28 décembre 67, après avoir repoussé 11 propositions de loi successives en 10 ans, l'Assemblée nationale française adopte enfin celle que propose le député Neuwirth et elle autorise la contraception. L'élu Neuwirth va libérer les femmes françaises et leur désir d'enfant. Bien après les américaines et les allemandes, elles peuvent ainsi acheter cette fameuse pilule, the pill.
You whined me and dined me when I was your girl. Promised if I'd be your wife, you'd show me the world. But all I've seen of this old world is a bed and a doctor bill. I'm tearing down your brooder house, 'cause now I've got the pill. All these years I've stayed at home while you had all your fun. And every year that's gone by, another baby's come. There's gonna be some changes made right here on Nursery Hill. You've set this chicken your last time, 'cause now I've got the pill. This old maternity dress I've got is going garbage. The clothes I'm wearing from now on won't take up so much yardage. Mini skirts, hot pants, and a few little fancy frills. Yeah, I'm making up for all those years since I've got the pill. I'm tired of all your crowing, how you and your hens play, while holding a couple in my arms, another's on the way. This chicken's done tore up her nest, and I'm ready to make a deal. And you can't afford to turn it down, 'cause you know I've got the pill.
The Pill par Loretta Lynn, chanteuse de country américaine, une chanson qui a été interdite à la radio. Loretta Lynn y explique comment cette petite pilule a changé son existence. Est-ce elle qui, dans la vraie vie, a 6 enfants, dont 4 sont nés avant qu'elle ne dépasse les 20 ans, avant donc l'arrivée de la contraception dans sa vie. Cette chanson sort 6 ans après Woodstock. La pilule est alors en vente libre aux États-Unis depuis longtemps, 1960, mais c'est une époque où l'avortement, que l'on appelle pudiquement the termination, reste encore un tabou et fait débat, ce qui reste le cas encore aujourd'hui aux États-Unis, alors que le droit à l'avortement est censé être protégé par le 4e amendement, mais il est remis en question dans plusieurs États du Sud, dont le Texas, où il n'est déjà plus remboursé par les assurances maladie. Un tabou dont les femmes n'osent pas parler et dont elles n'osaient encore moins parler dans les années 60. Globalement, c'est une époque où tout ce qui touche au corps est encore tabou. Dans l'Amérique puritaine d'après-guerre, la nudité, surtout masculine, est considérée comme obscène. Il aura fallu des provocateurs comme Allen Ginsberg, qui n'hésite pas à poser nu et célébrera toute sa vie la sainteté du corps, pour changer un petit peu les choses. Mais quand le film Woodstock montre des dizaines de jeunes Américains inconnus, filles et garçons mélangés, se baignant tout nus dans un lac, l'image est totalement inédite.
I don't think people come here to get it. Yeah. They come here to dig what's going on. And even if they don't get into the festival, it's just a great thing with all the people. You know, you realize all over the country they're coming together. You realize that you're not the only people in your city who are doing the things you are, but they're everywhere. We're taking over.
I think the body is beautiful. I think skinny dipping is just beautiful if you want to do it, if you can do it. But some people can't because all their environment made them, you know, feel that it's wrong. Even though they know in their subconscious that it's right, you know, it's you know, good and normal and natural. But
un extrait du film Woodstock. Voici donc deux jeunes filles qui sont filmées dans la foule des baigneurs de Woodstock. Elles s'expriment et elles expriment notamment leur fascination pour la beauté des corps dénudés en cet été, leur besoin aussi de briser les carcans et de faire tomber les murs de culpabilité qui les empêchent de vivre leur corps comme elles le voudraient. La deuxième jeune fille concède que tout le monde ne peut pas s'offrir ce luxe, même si certains jeunes savent au fond que c'est la nature d'être tout nu et que c'est bien, ils ont encore le sentiment de faire quelque chose de mal. Fellation, cunnilingus, pédérastie, oh Seigneur, pourquoi tous ces mots ont l'air si effrayants? La masturbation peut être amusante, venez rejoindre la sainte orgie. Voilà la proposition de la comédie musicale Air, premier opéra rock hippie né off-Broadway en 68, mais qui cartonne à l'été 69 et qui va s'exporter dans le monde entier, notamment en France avec le jeune Julien Clerc en vedette. Mais lorsque la comédie musicale arrive en France, au théâtre de la Porte Saint-Martin, les paroles ne sont pas tout à fait traduites mot pour mot. Étrangement, entre autres, la référence à la fellation s'est transformée en feuille de rose. En 69, Paris Match fait une critique dithyrambique du spectacle et raconte qu'à la fin de ce show unique, le public est invité à se joindre sur la scène aux comédiens. Il faut aller danser le jerk avec eux, sans trac ni timidité. C'est le meilleur moment de cette soirée à l'américaine, s'enthousiasme Paris Match. Pourtant, aux États-Unis, cette comédie musicale écrite par James Rado et Jérôme Ragny, mise en musique par le Canadien Galt McTermott, est selon le New York Times de 1969 le spectacle le plus cru de la ville. Ce qui choque, c'est notamment le sexe, la drogue et le traitement du drapeau américain dans la pièce, mais ce qui dérange le plus encore, c'est la scène finale dans laquelle presque tout le casting se retrouve nu sur scène. Le New York Times décrit « Des jeunes hommes en bonne santé se retrouvent tout nus sur scène avec des jeunes filles hippies ».
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent.
des femmes et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Voici l'hymne du MLF, le mouvement de libération des femmes, né en 1970 dans le sillage du Women's Lib américain et des luttes pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Faire corps avec son corps, le corps devient donc non seulement un lieu d'expérience intime, mais aussi d'expression du politique avec toute la complexité que cette tâche implique. Comment une trajectoire d'engagement dans ces années de changement rencontre-t-elle l'expérience intime et son expression concrète au quotidien ? Dans les foyers. En cet été 69, Méni Grégoire répond aux questions que les femmes se posent à la radio, sur RTL. Méni Grégoire est née 50 ans avant Woodstock, un 15 août 1919.
Allô ?
Oh, Madame Méni Grégoire ?
Oui, bonjour Madame.
Bonjour Madame. Je voulais parler pour faire la différence entre la sexologie, l'érotisme et la pornographie.
Ça n'est pas inutile, c'est bien une bonne idée. Je suis bien d'accord.
Voilà, je me suis mariée à 17 ans. Mon mari était plus âgé que moi, parce qu'il a 7 ans de plus que moi. Évidemment, je ne connaissais rien du tout.
Non, non, c'est normal à 17 ans.
Oui.
Est-ce que lui en connaissait un peu plus long ?
Oui, évidemment, il avait déjà vécu tout ça.
Oui.
Enfin, oui. Il avait vécu tout ça. Alors, il m'a appris beaucoup de choses, tout ça. Mmh. Et genre, il était très, très délicat au début du mariage.
Oui.
Et puis il m'a dit tu vas faire la différence entre la pornographie et
oui.
l'érotisme.
Oui. Oui.
Alors on a acheté des livres
oui.
érotiques
oui.
et des livres pornographiques.
Et vous a appris la différence.
Il m'a appris la différence.
Quand on est deux, vraiment que deux,
oui.
il n'y a pas de pornographie.
Non.
Est-ce que je me trompe ?
Oui.
Je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas.
Je ne me trompe pas.
L'amour à plusieurs. Sans chercher pourquoi, sans autre raison que d'aimer un peu à la déraison, l'amour à plusieurs. J'étais près de toi, oui, mais dans mes bras, ce n'était pas toi. Quand tu t'es penché pour me regarder, juste à cet instant. Je t'ai désiré, l'amour a plusieurs. Est-ce bon pour le cœur? Puis tu t'es glissé tout contre mon corps, et je sens ta peau qui me brûle encore. Ainsi j'ai compris n'aimer plus que toi, et que nous faisions là n'importe quoi, l'amour a plusieurs. bon pour le cœur. Et puis Anna m'avait caressé. Et puis Anna, j'ai su vous aimer.
L'amour à plusieurs par Anne Sorel, une chanson qui sort en 72 et qui sera envoyée aux radios sous le sage titre de l'amour à trois petits points. Et le mot plusieurs aura même disparu de la version radiophoniquement correcte qui sera envoyée. Comme le film Woodstock, où les jeunes se retrouvent en groupe, nus dans le lac, la nudité à plusieurs ou l'amour à plusieurs pourrait, oh horreur, tourner à l'orgie. Une orgie, c'est donc mal vu, sauf peut-être par Baudrillard qui dit « L'orgie, c'est le moment explosif de la modernité, celui de la libération de tous les domaines. Que faire après l'orgie ?» se demande le philosophe. « Nous ne pouvons plus que simuler l'orgie et la libération en faisant semblant d'aller dans le même sens, en accélérant, mais en réalité, nous accélérons le vide. » On ne saura pas si Brigitte Bardot simulait l'orgie ou l'orgasme et la libération dans ce « Je t'aime, moi non plus », mais en tout cas, elle a refusé que cette chanson ne sorte après son enregistrement en 67. Il faudra donc attendre 17 ans pour l'entendre. Du coup, Gainsbourg l'enregistre à nouveau, cette fois avec Jane Birkin, en 69, année érotique et début de leur idylle.
Si vous avez, madame, un peu de vague à l'âme, appelez-moi, je suis votre homme. Si vous avez besoin d'un petit coup de main, appelez-moi, je suis votre homme. Je suis un rang pour ma sœur, je prodigue en douceur et jusqu'à satiété, caresse et volupté. Je suis au point, en tout point, j'ai presque l'air humain. Robot perfectionné pour femme délaissée. Si vous avez, madame, des insomnies parfois, appelez-moi, je suis votre homme.
Vous l'avez peut-être reconnu, il ne s'agit pas de Serge Gainsbourg bien sûr, mais de l'instituteur le plus connu de France, l'instit Gérard Klein, qui donne ici des cours de plaisir à coups de machines, de robots masseurs. On est bien loin du carnaval des mâles dominateurs et surtout, le plaisir peut désormais se doper à autre chose qu'aux caresses humaines.
C'est encore la bande originale de R, Let the Sunshine, un titre qui appelle bien sûr le soleil et peut-être aussi un certain orgasme collectif illuminé, mais qui fait en réalité référence à Timothy Leary, prophète du LSD en son pays et un temps à Harvard, avec cette phrase « La vie est autour de toi et en toi ». Mais surtout, le Sunshine, c'est le nom de code d'une pilule de LSD. Le LSD, porte d'entrée vers une autre conscience pour Timothy Leary, qui le résume dans cette formule qui va inspirer la pop « Tune on, tune in ».
Dropout.
Turn on, c'est se brancher sur ses richesses intérieures.
Timothy Leary.
Tune in, c'est les redistribuer dans des créations harmonieuses et belles. Dropout, c'est laisser tomber l'inutile, les activités sans signification réelle. Mes collègues, les prophètes, ont toujours dit qu'il fallait se détacher du trivial et choisir ce qui est important. Drogue égale plaisir.
Énergie to study for a test.
Coup de fouet pour passer un examen.
Ecstasy.
Extase.
Enjoyment of music.
Acuité à la musique.
Enhancement of the senses.
Sensualité décuplée.
Religious revelation.
Révélation mystique.
Expansion of consciousness.
Élargissement de la conscience.
Acceleration of learning.
Joie d'apprendre.
Timothy Leary est docteur en psychologie et clinicien à Harvard. À la fin des années 60, sa renommée est telle qu'il ne se contente pas que de fréquenter les milieux du rock, de monter sur scène au festival de Monterey ou d'avoir des dizaines de chansons qui parlent de lui et du LSD. Il a aussi des relations avec Michel Foucault et Nixon le considère même comme l'homme le plus dangereux du pays. Il tentera d'ailleurs de devenir gouverneur de Californie et fera plusieurs années de prison. Pour Timothy Leary, le LSD permet de reprogrammer complètement le cerveau pour ouvrir la créativité totale, celle qui permet d'être maître de son destin et véritable acteur de sa vie. Cette injonction à en quelque sorte vivre sa propre fiction va véritablement traverser le XXe siècle et séduire de nombreux artistes qui porteront cette parole sur scène. Woodstock leur donnera une vitrine pour la postérité, notamment à ceux qui ont porté la vague de ce qu'on appelle l'acid rock, pour souligner sa source d'inspiration, l'acide, ou encore le rock psychédélique. Littéralement, psychédélique veut dire ce qui révèle l'âme, psyché, l'âme et les lots, montrer, rendre visible. Dans ce monde réel et triqué où l'on entend les échos du mal-être américain pour révéler leur âme, les Jefferson Airplane, une des têtes d'affiche de Woodstock, choisissent le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Ils vont jouer ce titre, White Rabbit, à Woodstock, le dimanche matin vers 9h, un tube qui propose une relecture de Lewis Carroll en transportant le monde imaginaire d'Alice dans un trip sous LSD. Grace Leak chante « Rien qu'une pilule et tu grandis, une autre pilule te fait rétrécir, celle que ta maman te donne ne font rien du tout, souviens-toi que de ce que le Loir dit, nourrit ta tête, nourrit ta tête. » Caterpillar has given you the call.
Aujourd'hui, les artistes semblent revenus du sexe, drogue and rock'n'roll et de l'apologie du LSD sur scène. Pourtant, dans les festivals, la mise à disposition d'alcool fort avant de monter sur scène est parfois imposée par ce qu'on appelle le rider, c'est-à-dire le document adjoint au contrat d'artiste qui stipule ce que le groupe doit avoir à sa disposition dans sa loge, en général à boire et à manger, et parfois plus. Mais à Woodstock, on n'a jamais autant évoqué le LSD dans le public, mais aussi sur scène.
The helicopters will still be flying out the wounded, and the green tabbed acid takers will be saying to one another, I took that green stuff and I feel great. What's all the hassle?
Ici, on entend Jerry Garcia, le guitariste de Grateful Dead, parler de ces fameux acides verts qui circulent dans Woodstock. Il dit qu'il en a pris un et qu'il se sent super. Je
ne
vais pas arrêter d'en prendre parce que certains sont malades. Là, sur scène, il est rejoint par un autre artiste, Country Joe McDonald, le fameux auteur du F.U.C.K. qui a fait lever et hurler la foule de Woodstock pour dire non à la guerre du Vietnam qu'on entendait hier. Country Joe explique que eux, ils adorent le LSD, ils en prennent plein, ils adorent, ils s'y connaissent. Et il dit, moi je m'y connais, ne vous inquiétez pas. Ces pilules-là, c'est peut-être de l'LSD ou pas. Mais si vous avez envie de prendre un trip, je vous dis qu'elle n'est vraiment pas terrible, cette pilule verte. Si vous l'avez déjà pris, c'est pas grave, vous ne mourrez pas. Mais si vous n'en avez pas pris, évitez.
Right on. Country common sense from us folks out in the Bay City.
Ici en live à Woodstock, sous l'effet donc de cette fameuse pilule verte. Les musiciens diront plus tard que Woodstock aura été le plus mauvais concert de leur carrière et ils vont même passer des années à essayer de faire oublier cette prestation sous LSD et sous la pluie, dans laquelle ils ont d'ailleurs manqué de se faire électrocuter plusieurs fois. Alors quand on écoute l'archive de 5 colonnes à la une de 1966 qui ouvrait cette émission et dans laquelle la journaliste décrivait les effets du LSD sur ces deux jeunes, Jean et Hélène, et notamment les hallucinations dont ils étaient victimes, on imagine que tenir une guitare, qui est quand même un instrument de travail pour un musicien, quand on est en plein trip sous la pluie, ça ne doit pas être un voyage très facile.
Thank you.
Tim Hardin, John de Sébastien et plusieurs autres artistes de Woodstock raconteront après coup les effets désastreux des divers psychotropes qu'ils ont pris à Woodstock. Des pilules et des buvards qui leur ont peut-être ouvert les portes de la perception à un moment, et des inhibés, mais qui ont eu raison de leur appréhension du tempo. Santana, par exemple, raconte qu'il s'accrochait rageusement à sa guitare, qu'il voyait se transformer en serpent pendant tout son concert. Alors quand le trip monte, une seule issue, respirer sur le tempo.
And then keep breathing as fast as you can. And exhale. And relax. And just feel the energy. These are all beginning exercises of Kundalini Yoga. Yoga means union.
Le yoga, comme le clip l'explique ce jeune blond à la longue queue de cheval qu'on voit dans le film Woodstock, le yoga, ça veut dire l'union, dit-il. Et c'est la même énergie que peut te donner la drogue. La drogue le fait pour toi, mais avec ça, tu peux le faire toi-même. J'ai appris tout ça à Los Angeles il y a quelques semaines. Tu t'es déjà assis pour fumer ? Avec le yoga Kundalini, tu peux arriver au même état, à cette explosion du cerveau, mais toi-même. C'est une expérience. Ce jeune spectateur de Woodstock, qui donc improvise un cours de yoga avec des centaines d'élèves dans le festival de Woodstock, a probablement été formé par un maître de yoga Kundalini qui vient d'arriver à Los Angeles en 69. C'est Yogi Bhajan qui va initier toute une génération de stars américaines et qui est l'un des maîtres yogis qui va populariser l'enseignement du yoga en Occident dans ces années-là. Un des murs que Woodstock a fait tomber, c'est peut-être cette ouverture occidentale sur l'Inde et sa relation entre le corps et l'esprit. Le boom que connaît le yoga, d'ailleurs, après dans les années 70, devra beaucoup à sa possibilité à se substituer aux drogues et à la disparition des spiritualités et des communautés religieuses occidentales. Richard Alpert, par exemple, qui est un des collègues de Leary à Harvard, a tâté du LSD et ensuite il se tourne vers cette pratique indienne. Contrairement à Leary, il arrête tout, il se plonge dans la spiritualité et se fait même appeler Guru Ramdas. Dans le film de près de 4 heures sur Woodstock, on ne voit pas le concert de Ravi Shankar, musicien indien, qui lui était d'ailleurs ouvertement opposé aux drogues et qui n'était pas du tout yogi. Mais dans ce film apparaît un autre maître qui monte sur scène, entouré de ses disciples et qui s'installe sur une estrade blanche, sa longue barbe au vent. Son discours commence par « My beloved brothers and sisters from America », mes frères et sœurs bien-aimés d'Amérique.
America is becoming a whole. America is helping everybody in the material field, but the time has come for America to help the whole world with spirituality also.
This presentation of devotional music and meditation shares God's beauty and light. It celebrates ecumenical principles and Eastern philosophy, uniting them into one divine song of praise.
Quand Sri Swami Satchidananda arrive à Woodstock, c'est celui qu'on vient d'entendre parler, il a 54 ans et il est de loin le plus vieux du festival avec Ravi Shankar. Il a été invité par un de ses disciples, le peintre Peter Max, et quand il monte sur scène, il rapporte une conversation qu'il a eue avec le petit-fils du Mahatma Gandhi qui lui demandait « Où va l'Amérique ?». Il dit alors, devant des centaines de milliers de jeunes et des caméras, « L'Amérique aide le monde dans les champs du matériel, mais le temps est venu pour l'Amérique d'aider aussi le monde avec sa spiritualité ». Avant d'arriver en Amérique, Satchidananda dirigeait des ashrams en Inde, il va monter en Virginie aux États-Unis, être suivi par des milliers d'Américains et certains artistes, mais celle qui va se rapprocher le plus du gourou de Woodstock, c'est elle, c'est Alice Coltrane.
The supreme onlooker. The supreme overlord. Scrutinizer of our deeds, the eyewitness of our thoughts, our sayings, our activities, the supreme intelligence, the ultimate reality, who is the supreme absolute causeless cause of life, who is
increate God, unborn Lot, uncreated God.
Love. Love is a sacred word. Love is the name of God. The entire universe is created with love, by love, and in love. Love is the beginning, love is the continuation, and love is the end. Love for love's sake is divine. It is constructive. It is beautiful. It brings peace. It brings harmony. It brings joy to the lover and to the lover.
Love. Après Woodstock, la musique cherche un amour un peu différent de l'amour chrétien. Un amour suprême, love supreme, comme dirait John Coltrane. Alice Coltrane a rencontré son mari John au début des années 60. Ensemble, ils ont cherché de nouvelles formes de transcendance dans les pages du Coran, dans des livres zen ou bouddhistes, ou encore dans les pages du Bhagavad Gita, le chant du bienheureux. John meurt en 67, mais après Woodstock, la musique d'Alice et sa vie vont prendre un tout autre chemin. L'Inde va rencontrer l'éthos universaliste et le jazz, un idéal peut-être pas si éloigné de l'influence du gospel de son enfance qu'Alice va synthétiser dans sa musique avec une direction indienne, comme dans ce titre qu'on entend avec ici la voix du gourou de Woodstock, Satchidananda, ou dans celui qu'on va écouter. La couverture du Times Magazine se demande si Dieu est mort. Trois ans plus tard, à Woodstock, pour beaucoup d'artistes, il est temps de repenser leur relation à l'Amérique, mais aussi à la transcendance. Pour les artistes noirs américains, c'est un peu différent. Le rêve de Martin Luther King a été assassiné. Alors dans le jazz, les préoccupations ne sont plus seulement sociales et politiques, elles deviennent cosmiques, galactiques et futuristes chez Sun Ra ou Herbie Hancock. Nina Simone s'exile et quitte ce qu'elle appelle « The United Snakes of America », un pays de serpents. Et comme eux, Alice Coltrane cherche un ailleurs, loin de l'Amérique. Elle se rapproche du gourou de Woodstock, Satchidananda. Elle lui dédie plusieurs morceaux, dont celui-ci, le fameux « Journey to Satchidananda ». Elle utilise sa voix dans sa musique et elle voyage en Inde. Et puis en 72, elle part vers l'Ouest américain avec ses quatre enfants. Quelques années plus tard, elle achète un terrain d'une vingtaine d'hectares près de Los Angeles. Alice Coltrane prend une nouvelle identité et un nouveau nom sanskrit, Turiya Sanghi Tananda, qu'elle traduit par « félicité absolue du plus haut chant de Dieu ». Elle se consacre alors uniquement au chant de dévotion dans son ashram. 10 ans après sa mort, le label new-yorkais de David Byrne, le chanteur des Talking Heads, publie un recueil des chants de dévotion qu'elle avait enregistré à l'attention de ses étudiants dans son ashram dans les années 80 et 90. Cette compilation s'appelle « The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sanghi Tananda ». Le label new-yorkais qui réédite ce titre, Ramaguru, a même retrouvé les étudiants et les habitants de l'ashram d'Alice Coltrane, soit une cinquantaine de familles installées dans les collines d'Agoura Hills du vivant d'Alice. Ils lui ont rendu un hommage exceptionnel à Brooklyn il y a 2 ans avec son fils Ravi Coltrane dans une ancienne usine reconvertie en salle de concert, une soirée très hippie, hipster, bobo chic, mystique. Pour y entrer, le public new-yorkais branché devait laisser ses chaussures, prendre un livre de prière, s'asseoir sur des coussins jaunes et chanter pour louer Turiya Sanghi Tananda.
I'd like to say Om Shanti again because you guys are beautiful. And this is all the music that Alice Coltrane wrote. And isn't it beautiful? Absolutely.
J'ai été l'étudiant d'Alice Coltrane pendant plus de 20 ans avant que son corps ne quitte cette terre. Et on avait l'habitude de commencer la journée par des prières en musique et on chantait le soir aussi. Et puis tous les dimanches, nous avions notre service, notre messe. Alice venait jouer parfois 2-3 heures ou plus et on chantait avec elle. Et là, la musique t'emportait très haut. Si tu connais un peu les églises noires américaines, les églises baptistes par exemple, et toutes ces églises qui ont créé le gospel, c'est le même genre de musique qui t'élève l'esprit et qui te bouleverse. Et le professeur Coltrane venait de tout cet univers, de ces églises-là. Et donc, elle importait une couleur gospel et son background jazz. Tout cela porté par sa profonde connexion avec le Seigneur. Et ça nous transportait.
Aujourd'hui, la spiritualité d'Alice Coltrane influence encore toute une génération de musiciens qui se précipitent sur les rééditions de ses morceaux méconnus et cultivent ainsi sa hype. Sur ce titre, qui s'appelle Auntie's Harp, son neveu, le producteur hip-hop californien Flying Lotus, sample Galaxy in Turiya de sa tante. Alice Coltrane n'a bien sûr pas été la seule à intégrer des influences indiennes cosmiques dans sa musique. La musique carnatique et spirituelle, le sitar ou les chants Hare Krishna vont définitivement imprégner la pop des Rolling Stones ou des Byrds et bien sûr la musique des Beatles. Comme ils avaient intégré les expériences et les références à Timothy Leary dans Sgt. Pepper juste après que le LSD n'ait été interdit à la vente aux États-Unis en 1966 et que le labo Sandoz, qui le vendait officiellement, ne doive l'arrêter sa production. Sans le LSD, il reste alors à la pop, l'Inde, la musique spirituelle et Krishna pour transcender les esprits.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Hare Krishna par The Fugs, un groupe de rock américain des années 60, connu pour avoir été engagé fermement contre la guerre au Vietnam. Les cloches et les Hare Krishna vont donc peu à peu s'infiltrer dans la pop post-Woodstock. Un autre exemple, Stevie Wonder, qui va faire un tube en mélangeant un gong, des chœurs et des cloches Hare Krishna avec de la soul et un chœur gospel. Ça donne Pastime Paradise.
Spending most of their lives living in a pastime paradise. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. Been wasting most of their time glorifying days long gone behind. Been wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgraced. Tell me who of them will come to. Consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation of grace relations,
sublimation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise.
Vous entendez bien les cloches Krishna qui structurent ce morceau, mais écoutez bien, vers la fin de ce titre, vous entendrez aussi les fameux chœurs Hare 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 Krishna mêlés au gospel. Et à la fin, il y a même un gros coup de gong. Paradise, let's start living our lives, living for the future paradise. Commençons à vivre nos vies pour nos paradis futurs. Une reprise de Stevie Wonder par Patti Smith, bien sûr. Demain, on essaiera et nous sortirons de la nostalgie de Woodstock, promis. Enfin, on va essayer. Aujourd'hui, notre trip estival est arrivé sur vos ondes grâce à notre robot masseur surhumain Jean-Christophe Francis à la réalisation, grâce à notre gourou Emmanuel Morse-Duncan à la technique, avec un grand merci à notre femme libérée Zineb Souleimani, à notre poète tout aussi libérée Annie Signoret de la bibliothèque de Radio France, ainsi qu'à nos sages consciences aux archives INA, Aude Vincent et Christelle Rousseau, sans oublier notre trip discographique délivré sans drogue aucune par l'immense Romain Couturier à la discothèque de Radio France. Voilà, c'était La Série Musicale, une émission proposée par Elodie Maillot. À demain.